Soyez les bienvenus sur Fréquence Magique. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Fréquence Magique, votre web radio en Haute-Vienne et sur fréquencemagique.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé avec Vue d'ici. Volets battants, coulissants ou persiennes innovants. Fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.
Ouvrez vos oreilles.
Vous écoutez Fréquence Magique.
Bonsoir à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 18h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut. On écoute la télé, l'hebdo sur Fréquence Magique, votre web radio en Haute-Vienne et partout dans le monde. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, c'est la fin de journée, on s'occupe du reste. Voici le sommaire de cette semaine.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, on va parler musique aujourd'hui avec l'album À nous de Noé Préchoff qui va nous rejoindre dans quelques instants. On va parler évidemment de son succès, il va nous faire découvrir des extraits de cet album sorti au printemps. Et puis on va parler de nos coups de cœur télé cette semaine et ils sont nombreux consacrés aux séries quotidiennes avec notamment Vanessa Demouy qui va nous rejoindre à l'affiche de la série Ici tout commence. Nous aurons également le plaisir de recevoir Solène Hébert en plein dans la tourmente. Victoire sera notre invitée aujourd'hui. Pour la série Demain nous appartient. Et puis Cécilia Ornus, alias Blanche, dans la série Plus belle la vie, sera également notre invitée. Et en fin d'émission, on parlera un si grand soleil avec un des couples de la série, Sophie Staub et Benjamin Bourgois, qui jouent Alex et Julie, qui seront donc nos invités pour une interview duo. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors tout de suite, voici un petit détour vers les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et on va tout de suite parler des audiences de la semaine dernière. Et on commence avec le téléfilm avec Jarry sur TF1, avec À tes côtés, qui a réuni 4 266 000 téléspectateurs pour 21%. De part de marché, L'amour est dans le pré, deuxième, avec 3 800 000 téléspectateurs et 19,1% du public. La nouvelle série de France 2, Jugée sans justice, arrive seulement à la troisième place avec 9,1% de part de marché et 1 961 000 téléspectateurs. Mardi, c'est Alex Hugo qui arrive en tête et loin devant avec 4 206 000 téléspectateurs et 20,1% de part de marché. Koh-Lanta est en dessous les 4 millions à 3 919 000 téléspectateurs, 20% du public. Et le film de Guillaume Canet, Nous finirons ensemble, arrive à la troisième place sur M6 avec 1 950 000 téléspectateurs. Et petit coup de mou pour Affaires conclues qui réunit seulement sur France 2 pour le Prime 1 845 000 téléspectateurs. Et puis il y avait Good Doctor mercredi sur TF1, c'est en tête, d'une courte tête même, avec 3 199 000 téléspectateurs, alors que France 2 avec J'ai menti arrive à la deuxième place avec 3 161 000 téléspectateurs. Et loin derrière, on retrouve France 3 avec Des racines et des ailes à 1 868 000. Et puis il y avait Fugueuse, le final sur TF1, leader jeudi avec 3 876 000 téléspectateurs et 21,4% du public. Et puis il y avait Le meilleur pâtissier qui faisait son retour avec 2 395 000 fidèles qui étaient au rendez-vous et 14,2% du public. Allez, tout de suite, Noé Préchoff est notre invité aujourd'hui. Musique dans Chut, on écoute la télé. On l'accueille juste après son titre fétiche, Faut que tous dansent.
Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence.
Allez, on va parler musique aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Notre invité d'honneur musical, Noé Préchoff, qui nous rejoint pour la sortie de l'album À nous, qui est sorti au printemps dernier. Noé était sur les routes de France tout au long de l'été pour faire découvrir cet album. Il avait promis de revenir avec nous dans Chut, on écoute la télé. Noé, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors Noé, pour ceux qui n'étaient pas avec nous cet été, voilà, t'es venu sur les Francopholies de La Rochelle, t'as fait plusieurs concerts et ton premier album, À nous, enfin, dans les bacs. Raconte-nous un petit peu ton parcours musical avant d'arriver enfin à ce premier album.
Ah, il y a quelques étapes. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je découvre le violon quand j'ai 3-4 ans. Je commence à apprendre le violon. Et puis en parallèle, je découvre la musique en tant qu'auditeur, la chanson française, la musique classique, le rock, mais surtout la chanson française avec passion. Et puis à 12 ans, je commence la guitare. Et en même temps que je commence la guitare, je commence à m'enregistrer. Et donc, dès l'âge de 12 ans, finalement jusqu'à aujourd'hui, j'enregistre des centaines de maquettes dans ma chambre. Et puis voilà, en fait, c'est ça. Et donc, ma vie, ça a toujours été de chanter et de ne faire que ça. Et puis voilà, alors j'ai fait des concerts, j'ai fait plusieurs choses en groupe, tout seul, etc. Jusqu'au jour où j'envoie mes démos aux maisons de disques. Et notamment avec la volonté d'atteindre le label tôt ou tard. Et là, il y a une rencontre qui se fait. Et voilà, et on fait un album comme ça ensemble. Enfin, je fais mon album et c'est produit chez eux. Et voilà.
Alors, il y a eu le titre Anouk qui était quasiment précurseur de tout ce qui allait se passer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il était écrit depuis plusieurs années. Et quand on écoute bien les paroles, par exemple, de ce titre qu'on a pu découvrir au moment du confinement, on a l'impression que tu es voyant un peu.
Oui, peut-être voyant, je veux bien le mot, mais comme tous les artistes, enfin ça fait partie de la mission artistique, je crois. C'est même si j'aime les chansons sur la mémoire, sur le passé, il y en a une qui s'appelle Les Poches Vides dans l'album, sur la transmission, quand même ce qui est excitant avec la pratique artistique, c'est de voir l'avenir et de sentir les choses et de se taire longtemps pour essayer de sentir ce qui se passe et de sentir ce qui se passe dans l'air. Et à nous, ça parle de ça, de l'overdose des écrans, de l'overdose de la communication, de la question de la vie et de trouver son propre tempo et sa propre respiration, de protéger sa solitude tout en pensant collectif. Alors comment on fait pour être et solitaire et solidaire? C'était ça cette chanson-là. Et forcément la société telle qu'elle est organisée pour l'instant fait qu'on est en quête de respiration et d'en finir avec les écrans, quoi.
Même dans Tous Dansent, tu parles d'état d'urgence. C'est assez hallucinant, quoi.
Ouais, c'est vraiment et en plus c'est vraiment le moment de création d'une chanson. Après, je peux passer des années sur une chanson en studio à peaufiner et tout ça, mais le moment du premier jet où il y a le premier trois quarts de la chanson, c'est un moment un peu comme ça de flottement, de vertige, où les mots sortent un petit peu tout seul. Et donc je me dis pas, tiens, je vais faire une chanson en essayant de pressentir ce qui va se passer. C'est assez magique. Et donc de chanter ces chansons là que ce soit l'été, que ce soit maintenant à la rentrée, je me sens bien dans ces chansons-là parce que il y a eu du temps aussi. Je les ai pas sorties comme ça immédiatement. C'est important pour moi.
T'as écrit toutes les chansons de l'album? Ou est-ce qu'il y en a avec qui t'as fait quelques collaborations?
J'ai écrit toutes les chansons. Il y a deux chansons que j'ai faites avec mon frère. Et on a écrit, oui c'est ça, une chanson qui s'appelle Le Monde à l'envers, qui parle des violences policières, et une chanson qui s'appelle J'entends d'ici, qui est justement une chanson qui parle aussi, mais de manière différente, de comment trouver sa propre respiration et de la conserver et de la protéger, tout en se sentant relié au monde et avec l'envie de vivre. Et donc c'est une chanson qui dit tu marches, tu marches, tu marches, et c'est-à-dire de garder, de rester en mouvement d'une certaine façon. Donc on a écrit ces chansons là ensemble, et puis il y a un duo avec une chanteuse bruxelloise avec qui je chantais déjà à l'époque quand je faisais des choses un peu plus folk et tout ça. Elle s'appelle Leila Lachterman, et en faisant ce premier album, j'avais envie qu'elle soit là, donc elle fait les chœurs sur l'album, et il y a un duo qui s'appelle Faire les choses bien.
T'as été étonné de voir un peu l'engouement autour de ce premier album assez rapide? Finalement, beaucoup de radios t'ont diffusé. Est-ce que ça t'a étonné, ça, de voir vraiment cet engouement rapide?
Ouais, c'est-à-dire que moi, vraiment, quand je suis, que ce soit le moment où je fais la chanson, où je suis en studio, etc., vraiment, sincèrement, à aucun moment je me dis il faut que ce soit plus ceci, plus cela, plus court. D'ailleurs, heureusement, parce qu'une chanson comme Anou, il y en a qui seraient tentés de dire ok, mais on a compris, donc on enlève la fin, on fait ceci, machin, on a compris. Donc moi, je me pose jamais ces questions-là. Donc l'étonnement, c'était plus celui-là. Voilà.
On t'a pas demandé de t'adapter justement et de changer ce que toi tu voulais faire pour t'adapter à un certain modèle, quoi.
Non, c'est ça. Et puis c'est ça aussi le choix de la maison de disques tôt ou tard, c'est que l'artiste d'abord, il est avant toute chose, il est libre. Une chanson courte, chanson longue, il faut juste que ce soit une bonne chanson. Donc voilà, ça c'était l'étonnement. Et puis ouais, je peux pas dire autre chose forcément, ouais.
On écoute un premier extrait de cet album à nous, lequel t'as envie de nous faire découvrir là maintenant, Noé?
Eh bien justement, je vais dire faire les choses bien.
On fait les choses bien, tiens maintenant. Faire les choses bien, c'est l'extrait de l'album à nous. Noé Préchoff est notre invité aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Faire les choses bien, ça veut rien dire. Et ils n'ont que ça à la bouche. La vraie vie en ligne est le mire. Dis-moi pourquoi, c'est un peu louche. Toi t'es pas tout à fait heureuse. Moi je suis pas tout à fait heureux. Ça sent encore l'envie furieuse. allait déraper sous les cieux.
On a tenté de faire les choses mais on a dissimulé nos fracas, d'argumenter autour de rien et d'ailleurs parle pas trop pour moi. On a camouflé nos fêlures, on s'est trahi, qui l'aurait cru. Toi t'as arrêté la peinture et moi je ne chante presque plus.
On a maté toutes les séries qui pouvaient ramollir nos âmes. On a appris à se divertir et à cracher sur nos flammes. On a tenté de capituler et de ne pas refaire le monde. On a failli faire les choses bien pendant plus ou moins 30 secondes. Faire les choses bien ça veut rien dire, et ils n'ont que ça à la bouche. La vraie vie en ligne de mire, dis-moi pourquoi c'est un peu louche. Toi t'es pas tout à fait heureuse, toi t'es pas tout à fait heureux. Ça sent encore l'envie furieuse d'aller déraper sous les cieux. Faire les choses bien ça veut rien dire, et ils n'ont que ça à la bouche. La vraie vie c'est quoi, le plaisir de s'agglutiner comme des mouches dans les mêmes bars aux mêmes heures, pour se raconter les mêmes conneries. Toi t'as complètement mal au cœur, et moi je ne sais plus qui je suis. Et moi je ne sais plus qui je suis. Moi je ne sais plus qui je suis. Et moi je ne sais plus qui je suis. Et moi je ne sais plus qui je suis. Qui je suis. Et moi je ne sais plus qui je suis. Et moi je ne sais plus qui je suis.
Et on revient dans un instant avec Noé Préchauffe qui est notre invité aujourd'hui. Musique, alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
Fréquence magique.
Je dois longtemps, longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir que ce silence qui te fera fuir, ou cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste. Et je peux lire dans tes yeux, tu te souviens pourquoi on se voit peu, t'avais oublié. Ça te revient, je suis un vieillard, je suis un gamin. Je bois de l'eau, j'ai pas de scoop, et quand on s'approche trop, je coupe. Tu me dis que tout se danse, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tout se danse, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Je dois longtemps, longtemps aimer, des amours mortes et enterrées, nous voir encore tout le temps partout et m'inventer des rendez-vous. Je dois longtemps ne pas comprendre pourquoi personne n'a su se rendre et prendre l'autre dans ses bras pour écouter ce qui ne sort pas, et à faire sauter les miroirs, à m'en faire péter la mémoire. Je sais, on dirait pas comme ça, il me faut rire, rire de moi. Il me faut des lettres anonymes qui m'accusent de tous les crimes, et au matin de ma vie, m'être fait beaucoup d'ennemis. Tu me dis que tout se danse, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tout se danse, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tout se danse, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tout se danse, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Il me faut longtemps, longtemps la lutte, la promenade et la dispute. Il me faut explorer mon époque,
et tout ce qu'elle provoque. Contempler mes contemporains qui subliment leur chagrin. Mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme. Tu me dis que tous dansent, même la honte qui monte, même l'absence que tous dansent. Danse.
Fréquence magique. Appréciez la différence.
Fréquence magique. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Et de retour dans Chut, on écoute la télé avec Noé Préchoff qui est notre invité aujourd'hui. Faire les choses bien, c'est le titre que l'on vient d'écouter. Noé, tout l'album est vraiment sur des sonorités. C'est un album que je trouve qui est sorti vraiment avec son temps et avec vraiment l'actualité, alors qu'il y a des chansons qui étaient écrites depuis combien de temps? Est-ce que tu te souviens en fait quand tu as écrit le premier titre de cet album?
Alors le plus ancien, c'est une chanson qui s'appelle La vie courante et qui date d'il y a 10 ans, j'avais 17 ans et j'ai écrit ça à cette époque là et je pensais pas la mettre dans l'album. Et puis en fait j'ai senti que pour être en paix avec moi et boucler une certaine boucle, j'ai eu envie de reprendre une chanson de mon adolescence et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est La vie courante qui est la plus ancienne, et puis sinon oui c'est ça, à nous elle a 3-4 ans, je compte même plus. Mais il se trouve que même cette chanson qui s'appelle La vie courante, en fait moi jusqu'au dernier moment, au dernier jour du dernier enregistrement, je change des choses dans le texte jusqu'à la dernière prise de voix. Donc pour moi une chanson, même si elle a 3-4 ans, elle a 30 secondes. C'est pour ça que ce sont pour moi toutes des nouvelles chansons. J'ai pas le sentiment d'arriver avec des casseroles que je traîne, que j'ai essayé de montrer ici et là. Elles sont vraiment nouvelles parce que il y a des mots qui changent, et dès lors qu'il y a un mot qui change, c'est une nouvelle chanson. Et donc si je change, si j'improvise quelque chose sur scène, eh bien pour moi c'est une chanson qui naît ce soir-là. Par contre, par rapport à l'actualité, effectivement il y a des choses, que ce soit les violences policières, il y a plein de thématiques qui sont, on pourrait dire, d'actualité. Mais il y en avait une par exemple, une chanson qui date du premier jour du premier confinement, une chanson qui s'appelle S'il faut ça, que j'avais sorti la démo sur internet justement, et je l'ai pas mise dans l'album parce que c'était presque trop rapide. Et justement la question du temps, c'est intéressant pour moi, parce que si la chanson est juste, même si elle parle du confinement, elle sera toujours juste dans quelques années, parce qu'il faudra se souvenir de cette période là
on sera pas prêt de l'oublier à mon avis.
Voilà. mais je voulais pas que ça soit dans ce premier album là par contre, il y a plein de conclusions à tirer de ce qui s'est passé avec ce virus, et il faudra s'en souvenir pour la planète et pour la vie. Voilà, mais donc j'aime les chansons d'actualité, mais il faut pas non plus que ça vienne bouffer le disque. Alors c'est cet équilibre là que j'ai voulu trouver.
En tout cas, il est bien chouette cet album, moi je vous le conseille. Ça s'appelle À nous. Est-ce que tu penses déjà à la suite? Est-ce que t'as des collaborations que tu rêverais de faire avec certains artistes français ou belges sur un futur album par exemple?
Alors j'ai pas vraiment pensé en ces termes là Il y a des artistes que j'aime beaucoup, mais pas, j'ai pas de nom comme ça à vous donner là immédiatement, désolé. Mais je pense à la suite dans la mesure où j'écris les nouvelles chansons et le prochain album est en train de se dessiner très clairement dans ma tête, et plus que dans ma tête, dans mes tiroirs quoi. Donc je travaille là-dessus, mais vraiment j'ai envie d'abord de faire vivre de toute façon ce premier album, voilà.
Pour écrire, quelles sont, on va dire, les meilleures conditions pour toi pour être inspiré? Est-ce que ça peut venir comme ça, n'importe quand? Est-ce que tu as besoin de t'isoler? Est-ce que tu as besoin d'être entouré, justement?
J'ai besoin qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Oui, c'est ça. J'ai besoin de me sentir finalement en confiance avec moi-même, même si que ce soit une période tendre ou une période difficile et très dure. J'ai besoin de, oui, c'est ça, d'avoir assez d'espace pour respirer et pour sentir ce qui se passe dans le monde. Moi, c'est vraiment, bien sûr, j'ai besoin de la ville, de cette électricité-là pour voir un peu ce qui se passe, d'être au café, d'écouter les histoires. J'ai besoin de ça. Mais j'ai aussi besoin d'une forme de distance pour sentir la terre vibrer. Et c'est pas en étant dans une forme d'ultra communication, de trucs, de messages, de mails, etc. Là, on s'entend plus penser, quoi. On peut pas réfléchir, on peut pas se tromper, on peut pas revenir sur ce qu'on a à dire. Donc voilà, j'ai besoin de me sentir relié au monde, mais une petite distance.
On va écouter un deuxième titre, c'est toi qui vas le choisir, de cet album À nous, qui est sorti au printemps, que vous pouvez bien sûr vous procurer. Lequel t'as envie de nous faire découvrir maintenant?
Une chanson qui s'appelle J'entends d'ici.
J'entends d'ici. Bon, j'espère en tout cas, on va t'entendre de loin pour cette chanson. Noé Préchoff, qui est notre invité aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Merci Noé, on te souhaite une bonne route et puis on espère te retrouver très vite en tout cas.
Avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
Pour prendre tel aimant de cours et le bon Dieu de vitesse, pour diluer les discours dans la brume épaisse, pour déplacer tes montagnes, ouvrir des routes, rendre les coups, foutre
mettre le feu à ton bagne et faire sauter tes écrous pour entrevoir un bout de mer et une vie dans ta vie, pour bousiller l'ordre des choses qui te bousillent. Sur la cime, lancer ton cri entre les creux, tenir la ligne. J'espère au fond de ma folie être là quand tu feras signe. J'espère au fin fond du pays être là quand tu feras signe. Tu marches, tu marches, tu marches, j'entends d'ici tu marches. Tu marches, tu marches, tu marches, j'entends d'ici. Tu marches, tu marches, tu marches, j'entends d'ici tu marches. Tu marches, tu marches, tu marches, j'entends d'ici. Et puis, je marche, je marche, je marche, je marche aussi, je marche. Je marche, je marche, je marche, je marche aussi. Je marche, je marche, je marche, je marche aussi, je marche. Je marche, je marche, je marche, je marche aussi.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé aujourd'hui avec le personnage de Blanche dans Plus belle la vie, Cécilia Ornus qui nous rejoint. Bonjour Cécilia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Blanche toujours au cœur évidemment des intrigues dans Plus belle la vie, un succès qui ne se dément pas. Et puis franchement, 17 ans maintenant que la série est là. Et je crois que tu es là depuis le tout premier épisode.
Oui, c'est ça. Premier plan, première séquence, premier épisode. L'arrivée des Marcy, de la famille Marcy au Mistral après un voyage au Canada. Et on n'a pas les clés. Donc c'est Roland qui va venir nous ouvrir, qui a les clés au bar.
Quelle belle histoire. 17 ans plus tard, être toujours là, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer?
Non, pas du tout. Alors, moi, j'étais assez confiante. Je me disais que ça allait quand même, voilà, tout ce qui avait été mis en place pendant ce grand travail de la part de toutes les productions. Pour moi, c'était évident que ça allait marcher et qu'on allait au moins durer un an, voilà. Et puis, ben, 17 ans après, on est toujours là. Et c'est vrai que c'est quand même impressionnant de voir ce rendez-vous qui ne se dément pas et tous ces gens qui continuent. Alors, il y en a qui sont toujours là, d'autres qui sont partis mais remplacés par d'autres. Il y a une évolution certaine et puis plein de personnages qui arrivent. Mais non, c'est magnifique. C'est comme un livre de famille, en fait. Hein. C'est comme un album de famille. Et il y a plein d'histoires. Plein de choses à raconter.
Alors, il est vrai que le personnage de Blanche n'a pas été épargné pendant toutes ces années. Entre sa brouille avec sa fille, elle a été ensuite aux prises avec l'enchanteur. Et puis maintenant, elle se retrouve en coloc avec son ex, qui lui est en train de faire un mariage blanc. Enfin bref, franchement, elle est épargnée par rien, Blanche. Hein.
Non, non, non. Voilà, c'est ça la richesse du feuilleton et la richesse de mon personnage. En tout cas, depuis le moment où j'ai été engagée pour jouer ce personnage jusqu'à maintenant, elle a eu déjà 1000 vies. Et je dirais que c'est un peu comme dans la vie. On se retrouve 20 ans après ou 15 ans après, on se dit ah mais il s'est passé tout ça dans ma vie, j'aurais jamais pu imaginer. Alors on va dire que c'est un peu plus concentré puisque c'est un feuilleton et que c'est de la fiction. Mais c'est ça qui est beau aussi, on est vraiment au cœur des intrigues avec beaucoup d'aventures à défendre, beaucoup de choses ancrées dans le quotidien et des choses plus romanesques. Et puis il y a une faculté de récupération qui est plus rapide aussi. Et je pense que ça plaît beaucoup aux gens aussi, ça.
Et puis maintenant il y a Noé, évidemment, aussi, qui est en train de vivre ses premières amours, qui est en train de... Voilà, donc là on a vu grandir ce personnage aussi au fur et à mesure.
Oui, tout à fait. Là, c'est vrai que Blanche est un peu dépassée. Elle a pourtant élevé déjà deux enfants, mais c'était pas la même époque. Donc, elle est un peu affolée, effrayée par tout ce qui se passe dans la vie de son fils et tout ce qui est censé s'y passer et qu'elle ne sait pas. Donc, elle est un peu inquiète par rapport aux premiers émois, notamment, etc., au fait qu'il a un combat pour l'écologie qui est certes très noble, mais qui le fait un petit peu déraper et un peu oublier qu'il y a quand même aussi le lycée. Donc, oui, elle est en prise avec beaucoup de choses différentes et elle essaye de s'adapter. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais elle y arrive.
Ça reste une maman poule quand même.
Ah bah, bien sûr, évidemment. Et puis, Franck aussi, le personnage de Franck aussi, finalement, aussi.
C'est clair, et puis quel bonheur de revoir un peu ce couple coexister sous le même toit, malgré tout, même s'ils sont plus ensemble. Mais c'est vrai que les retrouver avec Jean-Charles et le fait de pouvoir retourner ensemble comme ça de nombreuses scènes, c'est plutôt sympa. On l'aime aussi ce couple, nous. Même si c'est une histoire d'amitié maintenant.
Ah bah oui, bien sûr. Bah nous, on adore travailler ensemble. Hein. De toute façon, voilà, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble. En plus, sur ces personnages, donc chacun de notre côté, et sur le couple, qu'il soit un couple amoureux ou maintenant un couple parental, on va dire. Donc oui, il y a une complicité qui fait qu'on est très heureux de travailler ensemble et on travaille très vite, très bien. Donc c'est très agréable. Et Jean-Charles est toujours heureux aussi de défendre ce personnage de Franck, et on aime bien être autant dans les moments forts, un peu puissants et dramatiques, mais dans la comédie aussi, on adore.
Un autre personnage qui a fait son grand retour, c'est Thierry Ragneau, évidemment. Alors là, ça a bousculé un peu tout le clan Marcy, ce retour aussi.
Ah oui, oui, bien sûr. Donc ça a été un peu la grosse surprise. Et c'est vrai que ça génère beaucoup de tensions entre son demi-frère Thomas et puis Roland. Alors Blanche n'est pas vraiment dans ces intrigues-là. On le regrette parce que c'est vrai qu'on est toujours très contents de jouer ensemble tous les deux. Mais oui, oui, c'est... Et puis pour les téléspectateurs, je pense que c'est hyper gratifiant aussi d'avoir des personnages qu'ils ont aimés et dont on a parlé même quand ils étaient absents, puis que tout d'un coup reviennent. Vraiment.
On redoute un peu sur le tournage de voir Michel peut-être à un moment donné vouloir prendre un peu de distance, vouloir un peu se reposer, arrêter.
Il le fait déjà en fait, donc c'est vrai que maintenant, quand il vient pour des périodes assez intenses où il est là vraiment. Puis voilà, les moments où c'est juste pour servir au café, voilà, il est plus en retrait maintenant, mais il est toujours là et c'est toujours aussi agréable de travailler avec lui. C'est quand même le membre phare du début du Mistral. Donc Michel Corde, c'est vraiment une institution, on va dire.
J'imagine l'attachement que vous avez les uns pour les autres, c'est effectivement au bout de 17 ans comme ça.
Oui, bah bien sûr. Bah, surtout ceux du début, c'est vrai qu'on est liés par le fait d'avoir créé ce feuilleton, d'avoir été à l'origine de cette aventure incroyable. Et donc, on a tous ces souvenirs ensemble. Et puis on se connaît très bien pour le coup, donc c'est comme de la famille un peu.
Ça t'a laissé le temps de faire d'autres choses là, théâtre, enfin pouvoir remonter peut-être sur les planches. Est-ce que ça a des projets dans ce sens?
Oui. Bah, je refais du théâtre depuis 6-7 ans, depuis que mes enfants ont grandi en fait. Et là, oui, j'ai un beau projet de théâtre qui sera, j'espère, à Avignon l'année prochaine et ensuite en tournée, qui est un projet de femme, qui est un très beau projet, voilà, qui est encore pas tout à fait terminé, mais qui est en production. Et puis voilà, j'ai tourné dans La Stagiaire, je viens de participer à Munch aussi sur TF1, donc je fais plein de choses.
Merci beaucoup, Cécilia, d'avoir été avec nous, et puis on te retrouve évidemment 20h20 du lundi au vendredi sur France 3 dans Plus belle la vie. Merci.
Merci, au revoir, merci pour votre écoute.
Pas le problème, c'est pas que je rate les cours, c'est que j'aille à un mariage musulman.
Esma, réveille-toi un peu là, elle est à peine majeure. C'est forcément un mariage arrangé ou peut-être même pire, un mariage forcé.
En vrai, il a pas le droit de t'empêcher de suivre ta religion. C'est même pas ton père.
Tu sais, j'en ai rencontré un paquet, hein, moi, d'islamistes radicalisés dans mon boulot.
Abdel, arrête de la juger et mets-toi à sa place de minute.
Et si c'est moi qui décide de t'accompagner?
Il se passe quoi? Vous faites quoi là?
J'ai rempli ma part du contrat.
Vous allez effacer les preuves que vous avez contre moi. Autrement, j'irai rendre visite à votre oncle.
Mais t'es pas au courant? Le serial killer que la police cherchait, ils l'ont tué. Ils ont trouvé sa dernière victime vivante.
T'es sûr?
Certain.
Oh putain.
C'est toi qui as pensé à utiliser mon cousin Pascal et à le faire passer pour moi. Et grâce à toi, je suis blanchi définitivement.
Julien, je vous présente César, mon neveu. Enchanté, César.
Commandant Nebout, c'est César Cordonnier à l'appareil. J'ai des révélations à faire sur Jacob.
Ici tout commence, c'est notre coup de cœur télé évidemment de la semaine, on en parle souvent de cette série et puis on continue à accueillir les comédiens dans notre émission et c'est Rose Latour qui s'y colle aujourd'hui. Vanessa Demouyck est notre invitée. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ici tout commence, alors toi l'avantage c'est que t'étais dans Demain nous appartient déjà avant et là donc l'arrivée dans Ici tout commence, c'était un peu le transfuge, le star de la série et franchement la sauce a pris à une vitesse, est-ce que tu t'attendais déjà à ça toi Vanessa?
Ah, on espérait que la série plaise, mais c'est vrai qu'entre le moment où on a annoncé le projet, le moment où on a commencé le tournage et la première diff, il y a eu un engouement qui même nous a dépassé. Mais même je pense que la prod et la chaîne s'attendaient pas à ça. Évidemment ils pariaient sur un succès, ils ont tout fait pour que ça existe. Mais à cette vitesse-là, on ne pensait pas. Et surtout, il y a eu un public qui a été fidélisé très rapidement. Donc ça, c'est l'énorme cadeau. Ouais.
C'est ce qu'on regardait. On regardait un petit peu les courbes d'audience des épisodes et sur les 2, 3, 4 premiers mois. Et vraiment, mais ça jouait à 10 000 après. Les gens étaient fidèles, mais c'était juste incroyable de voir les audiences. Et la fidélité, c'est peut-être une des séries les plus stables, justement en fidélité, où vous gardez vos téléspectateurs, mais qui n'en ratent pas une miette. Ouais.
Oui, c'est vrai. Et puis c'est formidable parce qu'ils ont réussi ce challenge de faire une vraie série intergénérationnelle, une vraie série familiale, malgré le ton très libre. Et je dois dire qu'on a eu de la chance que la chaîne nous laisse faire ça. C'est-à-dire que nos jeunes parlent vraiment comme des jeunes. Ils ne sont pas bridés. Tous les sujets sont abordés. Ce qui permet, même si parfois les parents grincent un peu des dents à la diff, de débloquer la parole. Et c'est le retour qu'on a absolument de tous, des jeunes et des parents. Cette espèce de liberté de ton qui fait que d'un seul coup, bah, y a des trucs où ils osaient peut-être pas, et puis d'un seul coup, ça se libère et ça parle. Et ça, c'est formidable.
Alors, c'était tendu, hein, avec la sœur, hein, au début, avec Clotilde, hein. Ça n'a pas été facile de s'accepter mutuellement. On a l'impression, quand même, malgré tout, maintenant que la relation s'est vraiment apaisée entre les deux sœurs.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'elles ne s'étaient pas vues depuis tellement longtemps. Au début de la série, ça faisait 20 ans qu'elles ne s'étaient pas revues. Donc, forcément, mais il y a quand même un drame qui les rapproche, qui est la mort de leur mère, qu'elles ont vécu très différemment, forcément. Et en même temps, il y a autant de façons de vivre un deuil qu'il y a d'individus. Donc, mais cette faille qu'elles ont en commun les rapproche quand même. Et Clotilde, sous ses airs comme ça, très durs, elle cache une grande, grande sensibilité.
Rose est toujours là pour les élèves. Elle est toujours de très bons conseils, une oreille attentive, une douceur. Justement, toujours là avec cette histoire de bébé en plus, en ce moment qui nous occupe. Alors non seulement ça réveille effectivement pas mal de choses avec Tess, et ce bébé évidemment vient réveiller toutes ces douleurs aussi du passé.
Oui, effectivement, Rose est dans un besoin de maternité, dans un besoin de materner. Et donc là, dans un institut où il y a autant d'enfants, quoi, de jeunes, elle s'en donne à cœur joie finalement. Et c'est vrai que cette histoire avec ce bébé va non pas raviver, parce qu'elle vit avec ça, hein, elle vit au quotidien avec ce drame. Et en même temps, on a face à nous une Rose qui est plus déterminée que jamais, plus mature que jamais. Elle savait ce qu'elle ne voulait plus. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle sait aussi ce qu'elle veut. Qu'elle est très centrée, l'autre passe avant. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se fixer sur cette envie de bébé. C'est l'intérêt de Naël qui prime. Et c'est pour ça qu'elle dit à Antoine, quand il lui propose de l'adopter, non.
Une chose qui est très belle aussi, c'est ce couple joué avec Frédéric Diefenthal. C'est un peu le noyau dur de l'Institut. On a l'impression que c'est un couple indéfectible. Et pourtant, il y a eu un coup de canif dans le contrat à un moment donné avec Lisandro. Mais on a l'impression que le couple en est ressorti encore plus soudé peut-être.
Et c'est là toute la force de l'écriture. C'était très intéressant d'avoir un couple. S'il ne s'était jamais rien passé, c'était un couple sans aspérité. On n'y croit pas. Une vie, c'est long. Beaucoup de couples qui sont ensemble depuis de nombreuses années doivent faire face à des histoires, à des drames, à des coups de canif dans le contrat. Et le plus important, c'est savoir comment on surmonte ça. Est-ce qu'on a envie de continuer ensemble ou pas ? Ce genre d'histoire fait que si le couple s'en sort, il est d'autant plus fort. Et c'est ce qui est arrivé à Rose et Antoine.
Et alors, les mémoires du paternel, ça avance. On va bientôt voir Rose sortir les mémoires d'Auguste.
C'était pour l'instant, Rose a repris l'écriture. Elle est sur le portrait de grand chef. Donc voilà, ce pan de sa carrière est de nouveau mis en avant. Les mémoires de son père, je pense qu'elle y viendra dans quelques temps. Vous verrez.
À venir, très vite. La première chose que je me suis demandé aussi, parce que le décor que nous on voit à l'écran, il est absolument magnifique.
Imaginez, en vrai, c'est absolument dingue.
Et quand tu y as été la première fois, tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit, ah ouais, ça va être là mon terrain de jeu ?
La première fois que moi je suis arrivée, il n'y avait pas encore... la prod m'a emmené visiter le décor qu'ils envisageaient.
Qui était brut un peu.
Oui, il n'y avait pas eu encore la déco, il n'y avait pas... Mais c'était juste magique. Déjà, c'était magique. Donc les cuisines n'étaient pas encore là. À la place du restaurant, c'était une énorme piscine. Mais c'était déjà fou, quoi. Ce lieu a une histoire, c'est chargé, ça se sent. En même temps, c'est immense. Et en même temps, on ne s'y sent pas du tout écrasé. Il faut venir voir le décor, c'est magique.
On va y venir très vite. On laisse le Covid passer un petit peu parce qu'on veut vous laisser travailler dans de bonnes conditions. Mais promis, quand tout ça va être fini, on va descendre à Calvière, venir vous voir là-bas sur place. Bien évidemment, on a hâte de découvrir ce magnifique décor. Merci beaucoup Vanessa d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On t'embrasse et puis on te dit à très vite sur le tournage.
À très bientôt.
Précédemment.
Comment ça vous est venu cette idée de dessert ?
Je l'ai spécialement conçu pour l'émir Mohamed Ben Abdelaziz.
C'est pour lui que vous travaillez juste avant de venir ici ?
Ouais.
Mohamed Ben Abdelaziz, attends, il est mort d'une crise cardiaque il y a 6 mois.
Pourquoi un mec de ce niveau aurait besoin de sortir un gros mytho pareil ?
Ça cache forcément un truc.
Coucou, petite bouille. J'ai fait croire que Naël c'était mon fils parce que j'ai peur de jamais avoir d'enfant.
Tu feras une super maman.
C'est pas mon fils, ok ? C'est pas moi la mère de Naël. J'ai voulu le gosse à personne, il a été abandonné, il a eu besoin d'une famille.
Et coup de cœur télé consacré à Demain nous appartient. Vous suivez les aventures en ce moment, et bien de Solène Hébert, qui est, on va dire, dans deux sales draps, on peut le dire, avec une aventure vraiment haute en couleur. Solène, qui est notre invitée, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très très heureux de t'avoir parce que depuis maintenant un peu plus de 2 semaines, tu nous embarques dans une aventure hors du commun avec évidemment cette attaque cardiaque qui commence, cette greffe du cœur que tu subis. Et là évidemment cette greffe qui va apporter beaucoup de choses, non seulement dans le cœur mais aussi dans la tête de Victoire.
Oui, c'est sûr que encore une fois, les auteurs m'ont beaucoup gâté. Il y a encore beaucoup d'aventures et d'émotions pour Victoire et du coup pour moi au passage, qui ai fait cette folle intrigue. C'était super intéressant à jouer, épuisant aussi mentalement au niveau d'émotions et physiquement, mais voilà, que du bonheur. Et puis en plus avec tous les partenaires que j'adore et puis le nouveau trio avec Raphaël et Camille, qui était vraiment vraiment top à jouer.
Une intensité, oui, c'est nous ce qu'on ressent à l'écran. T'as dû quand même ressortir épuisé de cette arche à tourner.
Oui, ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment, j'ai eu beaucoup de messages super mignons de gens qui ont suivi l'arche et qui m'ont dit qu'ils ont adoré et qu'ils me détestent parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup pleuré et qu'ils pleurent tous les soirs devant leur télé. Mais sachez que moi aussi, j'ai beaucoup pleuré. Donc, on est pareil.
Mais on souffre avec toi, hein, clairement.
Oui, j'ai souffert aussi.
Quand tu as lu cette intrigue, justement, tu t'es dit quoi au premier abord ? Tu t'es dit, ah ouais, les auteurs quand même, là...
Au début, on m'avait pitché l'intrigue et c'est vrai que je m'étais dit, ok, là, ça devient totalement barré, dans quoi on s'embarque. Et en plus, c'est très, très rapide, c'est-à-dire que le cœur qui lâche, la greffe de cœur qui se passe 2 ou 3 jours après, ensuite, je sors de l'hôpital 1 semaine et demie après, enfin, c'est très, très condensé, avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Et en fait, après, quand j'ai reçu les textes et que je les ai lus, je me suis dit que non, en fait, c'était très bien amené, c'était bien ficelé. C'était hyper intéressant parce qu'il y a plein de rebondissements, on nous embarque à chaque fois sur des pistes pour rebondir sur une autre et il y a plein de fils rouges, en fait, qui s'entremêlent avec beaucoup de personnages aussi qui participent à l'intrigue. C'est pas que sur moi, c'est vraiment, c'est choral. Et non, je la trouvais bien ficelée et hyper intéressante.
Et alors, la petite cerise sur le gâteau quand même, c'est qu'à peine partie, tu vois Juliette revenir. Ça, c'est un beau cadeau aussi parce que je sais que vous entendez très très bien toutes les deux et je sais que c'était un grand bonheur pour toi de voir revenir Juliette pour cette intrigue à tes côtés.
Ah bah oui, j'étais super contente de la retrouver parce que c'est vrai que ça a été très dur pour moi. Enfin, il y a eu pas mal de départs qui ont été durs parce que c'est les copains, parce que c'est les gens avec qui on tourne cette série. On a créé cette série il y a 4 ans et demi. Mais c'est vrai que Juliette particulièrement, qui est comme ma sœur, qui est ma voisine, où je passais toutes mes journées, toutes mes soirées avec elle et sa famille, ça a été un très gros vide. Et donc j'étais très heureuse de la retrouver sur cette intrigue.
Je te dirais franchement, c'est dur pour nous aussi, hein, téléspectateurs, hein, de voir partir effectivement pas mal d'acteurs. Donc on est vraiment content de la voir revenir et on espère évidemment qu'avec Marie, elles reviendront, ainsi que Véronique qui joue quand même ta maman. Avoir Véronique Jeannot comme maman, mais ça c'est aussi un beau cadeau que t'as amené. Demain nous appartient.
Ah ben on forme une super famille. Honnêtement, ça a été que des rencontres. C'est la famille quoi, c'est la famille de cœur.
Alors dans cette intrigue justement qu'on est en train de vivre là en ce moment, on va arriver bientôt on va dire à l'épilogue de cette intrigue. Est-ce qu'on va te voir ensuite ou est-ce que là ça va poser un petit peu pour toi ?
Il y a ensuite les répercussions qu'il va y avoir encore 2-3 semaines parce que oui, il y aura.
Donc on va te voir jusqu'à fin octobre, début novembre.
Ah oui, jusqu'à novembre, oui. Oui, là, pour l'instant, j'espère que vous ne lassez pas de moi parce que je vais être là encore un petit moment.
Mais ça nous fait du bien hein, de voir quand même la base, hein, on va dire le socle dur de Demain nous appartient avec une belle intrigue. Ça, voilà, ça fait du bien et je suis sûr que les spectateurs, en tout cas, t'envoient plein de messages dans ce sens.
Oui, c'est vrai, on a beaucoup de messages. Mais en fait, je n'avais pas du tout même réalisé, mais dans cette arche-là, c'est vrai qu'en fait, c'est principalement même que les anciens, ceux qui sont à l'origine ou qui sont arrivés très rapidement dans la série et je n'avais pas réalisé. Et en fait, les fans l'ont remarqué et beaucoup font le retour en disant que ça fait du bien justement de nous revoir et d'être ensemble et de les embarquer sur cette arche avec les gens d'origine, quoi.
Est-ce qu'il y a une scène un peu difficile pour toi ? Est-ce qu'il y en a une qui ressort là, maintenant que tu as fini de la tourner ?
Ben, en fait, ce qui est difficile à chaque fois, c'est qu'on joue des choses qu'on n'a jamais eu l'occasion de jouer. Et ça que je trouve ça incroyable, c'est qu'au bout de 4 ans et demi, les auteurs arrivent encore à me mettre des intrigues en me proposant des choses que je n'ai jamais jouées. Et c'est toujours hyper intéressant. Et par exemple, là, j'appréhendais beaucoup les crises d'angoisse avec Dimitri. Où d'un seul coup, il faut imaginer, en plus on tourne très rapidement, donc c'est une prise, tout le monde s'installe, etc., caméra, lumière, machin, ok, action, et là il faut se rouler par terre en gueulant, aidez-moi, sauvez-moi, et en vrai c'est assez, j'appréhendais beaucoup parce que le sauvez-moi c'est quelque chose qui rentre toujours dans les clichés, il faut vraiment l'incarner, il faut vraiment ne pas avoir, en fait avoir enlevé toute pudeur pour pouvoir jouer ça, et j'appréhendais ça, et après ça s'est joué et puis mon corps a parlé pour moi, donc j'espère que ça a marché en tout cas.
Il y a des scènes très flippantes, hein. Je t'avoue que là franchement à chaque fois que Dimitri apparaissait dans la chambre, t'avais des frissons partout, hein, qui parcouraient le corps.
Oui, et puis en plus c'était un super partenaire, alors je le connaissais pas au début quand il est arrivé, donc Antoine, il avait que les séquences où il parlait pas, il me regardait de manière très méchante, donc je me foutais de lui à chaque fois parce que vraiment il venait que pour ça, et non c'est un super comédien et au final il m'a aussi beaucoup renvoyé pour que je puisse arriver à ces états là.
T'as pu rencontrer des gens greffés du cœur qui ont pu vivre une expérience pas forcément similaire, mais qui ont pu vivre un peu ce type d'expérience, de ressentir des choses que la personne justement qui a donné le cœur a pu vivre, quoi.
Non, j'en ai pas rencontré. Après, évidemment, je connais Charlotte Valandré qui s'est fait greffer du cœur, mais je crois pas qu'elle ait eu d'expérience de cette sorte. Mais après, je me suis beaucoup renseignée. Et oui, effectivement, il y a plein d'histoires. Alors, il y a l'histoire qui revient de la personne greffée qui tombe amoureuse du mari ou de la femme de la personne qui a reçu le cœur. Donc, en fait, comme si les deux cœurs se retrouvaient. Donc, ça arrive souvent. Il y a même un livre qui a été sorti là-dessus. Et après, aussi, les dons qui se manifestent après la greffe du cœur. Donc, typiquement, là, Victoire qui ne savait pas dessiner, qui se met d'un seul coup à très bien dessiner, ça c'est des choses qui arrivent tout de suite ou qui arrivent dans la vie réelle.
Et médicalement c'est inexpliqué quand même, hein. Aujourd'hui les médecins s'y refusent carrément, hein, à ce genre d'explication, c'est ça le pire.
Ben oui, bien sûr, parce que d'un terme purement scientifique, c'est un organe. Après c'est le plus gros organe et on en fait le siège de nos émotions, mais en tout cas, oui, c'est les capacités qu'on peut développer après une greffe de cœur. Et puis, par exemple, des gens qui entendent une musique qu'ils n'ont jamais entendue de leur vie et qui les bouleversent alors que c'était relié, en fait, à l'autre personne. Enfin, il y a plein de choses inexpliquées et c'est ça. Moi, je trouve ça beau, justement, parce que c'est pas qu'un corps, c'est pas qu'un organe. Et oui, c'est effectivement le siège de nos émotions et il y a plein de mystères qui recèlent dedans.
Maëlle va venir nous rejoindre la semaine prochaine. Il va nous parler un petit peu de comment il a vécu cette intrigue, parce qu'évidemment le couple aussi avec Georges est mis à rude épreuve dans cette aventure.
Oui, ça va être notamment les répercussions, c'est que le couple va pas très bien. Alors ils ont souvent été mis à rude épreuve, Victoire et Georges, mais là ça prend une tournure différente parce que ça fait déjà la deuxième fois d'affilée avec avant l'intrigue avec Jaya où ils me croyaient pas non plus quand je disais que c'était la femme qui l'empoisonnait. Et là maintenant qu'ils me croient pas et qu'ils me soutiennent pas dans cette démarche où moi je suis mal et ils veulent juste me mettre sous médicament et que je dois me cacher et faire les choses par derrière. Et le nouveau cœur aussi, parce que comme je disais, le cœur c'est les émotions et je n'ai plus le même cœur, donc il va se passer des choses.
Ça s'annonce compliqué. Solène, est-ce qu'il y a aussi des projets, des beaux projets pour toi? Alors, je crois que Grand Hôtel, il y aura pas de saison 2.
Non, pas de saison 2 pour Grand Hôtel. Après là j'ai des projets qui sont en train de se dessiner mais rien encore de définitif.
En tout cas on te suit déjà tous les soirs, ça c'est notre bonheur, à 19h10 sur TF1. Merci à toi en tout cas.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui souhaitent encore rejoindre la team d'En Avant Varda, il reste de la place.
Tu vois ce que c'est qu'un vrai discours?
Dégage, laisse-moi. Mais arrête avec ton téléphone là, tu veux pas me lâcher deux secondes là?
Hashtag gênance.
On enquête sur l'enlèvement de Roxane Thiemen.
Qu'est-ce que nous a à voir là-dedans?
On va pas lâcher l'affaire, hein. On parle de Roxane.
Personne lâche l'affaire, on met tout en œuvre pour la retrouver.
On est forcément passé à côté d'un truc. Noah sait où est Roxane, c'est sûr. Putain, mais laissez-moi l'interroger!
T'es plus objectif du tout là, tu t'entends?
Il pense que Noah est innocent.
La réponse est forcément là, dans mes dessins.
Et dans un instant, Sophie Staub et Benjamin Bourgois pour un si grand soleil viennent nous rejoindre. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite.
Fréquence magique. S'il te plaît, ouvre les yeux.
prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. Composé d'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années, l'avenir. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années? L'avenir nous les rend. Où sont passées?
Où sont passées? Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Appréciez la différence.
Fréquence magique.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à Si Grand Soleil, et on va retrouver deux personnages que vous aimez beaucoup. Évidemment, un couple à l'écran comme à la ville. Ils sont avec nous aujourd'hui pour en parler, Benjamin Bourgois et Sophie Staub. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, le couple Julie-Alex qui n'en finit pas de faire parler, surtout en ce moment. Alors le torchon brûle, mais cette semaine, il me semblerait qu'on n'est pas loin peut-être d'une réconciliation. En tout cas, c'est ce que les téléspectateurs espèrent. Après une première intrigue sur la surveillance, on va dire, alors même pas de sa proie, mais il est tombé complètement en amour, Alex, de sa Julie lors d'une surveillance. Et c'est là que tout a commencé, après, on va dire, toutes les désillusions amoureuses qu'il a pu vivre, ce personnage, Benjamin.
Oui, en effet. Alors, bah, il surveillait sa proie, j'aime bien l'expression, c'est bien, avec ses jumelles de chasseurs à suivre. Oui, alors c'est une nouvelle aventure pour lui à ce niveau-là. Il découvre Julie. Alors, il y a eu un coup de foudre, hein, ça s'est passé comme ça dans la première, cette première arche avec elle. C'est un coup de foudre. Là, on a pu suivre un bonheur installé. Après arrive le grain de sable dans le rouage, pour l'instant, interprété par Shemsoda, Jade. Et puis, on en est là, à cette période un petit peu plus compliquée. Est-ce qu'il y aura réconciliation? Est-ce que, en effet, le torchon, comme tu dis, va brûler jusqu'au bout? On va voir. Voilà, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette deuxième arche.
Sophie, est-ce que tu savais, quand t'allais arriver dans un si grand soleil, que ça allait être pour jouer avec Benjamin dès le départ, quand t'as fait le casting?
Ah oui, bien sûr. Il m'a donné la réplique pour les callbacks, ce qu'on appelle les callbacks, c'est-à-dire quand on passe une première série de casting et puis qu'on est présélectionné et qu'on revient pour passer la deuxième. Donc voilà, je le savais dès le départ, puisque les scènes de casting étaient avec Alexandre Lévy et j'avais une petite idée qui interprétait Alexandre Lévy.
Voilà. Ah bon. Ah tiens.
Ouais. Mais on s'en était parlé deux, trois fois à la maison. Très
vite fait. C'est ça qui est pratique quand même. Alors ce grain de sable prénommé Jade en ce moment, voilà, va-t-il mettre fin au couple ou pas, ou va-t-il le ressouder plus fort que jamais? C'est cette semaine que tout va se jouer dans Un si grand soleil. On sent le plaisir quand même que vous avez, mine de rien, à jouer, même tous les deux, mais dans la série en général.
Oui, c'est des moments très joyeux. Toutes les équipes sont hyper accueillantes. Je crois que ça fait assez consensus avec tous les gens qui viennent un petit peu ou beaucoup travailler sur Un si grand soleil. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Et puis nous forcément, on adore se retrouver et jouer ensemble. Il y a une facilité, il y a une simplicité. Enfin, c'est vraiment des moments agréables travail. Ouais.
Oui, ça se passe assez simplement. On se connaît bien, évidemment, parce qu'on a travaillé ensemble il y a longtemps, même au théâtre. Non, mais au théâtre, c'est vrai qu'on a été partenaires au théâtre, mais alors ça pourrait changer de la scène à l'écran, mais en fait, la complicité, elle reste pareille. Puis le process de travail reste le même. On a la chance de pouvoir travailler aussi en amont. C'est-à-dire que évidemment, nous, on a déjà les textes bien avant, ce qui est un luxe dans une quotidienne comme ça aussi massive, aussi compliquée, voilà. Et on a réussi, nous on réussit à travailler en amont, en couple, le soir on est ensemble, donc c'est quand même très pratique de pouvoir se faire les scènes, les travailler, de les absorber beaucoup plus facilement quand on est à deux, comme ça c'est un luxe, ce qui fait qu'en plus de notre complicité naturelle et de la connaissance qu'on a de l'un et de l'autre, quand on arrive avec la somme de travail qu'on a déjà en plus acquise la veille, et puis même l'avant-veille, voilà, c'est encore plus simple. Et comme dit Sophie, bon, on est dans un groupe qu'on connaît bien, accueillant. C'est hyper agréable. C'est hyper agréable.
Alors, je me mets un petit peu à la place des auditeurs qui ont peut-être jamais regardé Un si grand soleil. Et moi, j'aimerais bien qu'on définisse un petit peu les personnages. Comment on pourrait la définir, Julie ?
Julie, c'est une jeune femme qui a une soif de liberté, qui est assez affranchie en fait. Donc elle est barmaid, elle a quelque chose d'assez rock'n'roll. C'est une fille qui a beaucoup de légèreté, de franc-parler, et c'est ce qui plaît au personnage d'Alex tout de suite, parce que ils sont assez contrastés en fait. Je dirais que ce qui la qualifie le mieux, c'est son côté un peu rock'n'roll mais solaire. Pour le moment en tout cas, elle n'a pas de côté dark en fait. Et là, ce qui se passe avec sa copine, finalement, on pourrait la ramener à un passé légèrement sulfureux, mais finalement, on sent que elle n'a pas de fond
mauvais.
Ouais, elle n'a pas de fond mauvais, quoi.
C'est le premier mot, moi, qui me serait venu vraiment à l'esprit quand on parle vraiment du personnage de Julie, c'est solaire. Depuis le début, elle a amené ce soleil dans le personnage d'Alex, qui a vécu quand même beaucoup de désillusions amoureuses. Hein.
Oui, le pauvre vieux.
Le pauvre vieux, j'aime bien comment tu le définis.
Mais le pauvre vieux, il a vécu des choses. Mais c'est surtout qu'il y a un truc, alors ça va être terrible pour Marianne Fabreau, que j'embrasse, et qui est une super partenaire, mais le personnage de Virginie, qu'elle interprétait, était plutôt un pansement par rapport à tout ce qui se passe, et c'était un truc... On en avait parlé un petit peu avec la direction artistique. Ce qu'il a vécu, lui, quand il a eu la naissance du personnage, c'est plutôt sa première histoire avec Gaëlle Lestrac, interprétée par Hélène Nogy, que j'embrasse aussi. Mais oui, j'embrasse mes partenaires. Non, c'était très chouette, mais il a vécu, c'était un petit peu terrible, amoureusement, bref.
C'est une histoire forte, oui, avec Gaëlle.
Forte, etc., passionnelle, et ça, il s'est fait trahir, le pauvre vieux. Bon, bref, voilà. Il en a bavé, et est arrivé, donc, le personnage de Virginie, qui a été vraiment un pansement, qui l'a rassuré, mais bon, c'est pas un truc qui lui correspond.
Pas la passion. On sentait pas la passion.
Il y avait pas la passion, puis ça fait partie, c'est un grand nounours sympathique, mais qui a besoin un petit peu d'être réveillé, par les braises ardentes d'une passion, et de quelqu'un de solaire, bah, justement, comme Julie. Donc, il y a eu le coup de foudre, la situation qui a déclenché aussi cette chose-là. On pourrait imaginer que s'il avait rencontré Julie d'une autre manière, ce serait passé peut-être moins bien, ou du moins peut-être moins passionnel, peut-être. Mais il a besoin de ce truc-là, lui, dans son couple, dans sa vie. Ça se sent, c'est un truc qui était en parallèle avec Gaëlle. Il a besoin d'une femme forte, solaire, qui soit présente, lui qui est plutôt sympathique mais un peu effacé. Alors là, il y a une tournure que prend le personnage d'Alex, bon, en accord un petit peu avec la direction artistique, c'est qu'il essaie de s'émanciper un petit peu, de prendre soin de lui, d'essayer de bouger à ce niveau-là.
Il peut compter sur Manu Léoni aussi pour le réveiller quand même.
Oui, mais le réveiller, lui, il fait des blagues plutôt, c'est plutôt des blagues et des croche-pattes gentilles, mais bon, ça c'est les copains, c'est l'amitié, la bromance, comme on dit, mais... ça, à ce niveau-là, c'est sûr que Manu et Moïse, même lui-même, adorent faire ça. Donc, on s'amuse beaucoup à insérer ce genre de petites choses dans les scènes qu'on a à faire. Mais voilà, le personnage d'Alexandre a besoin de quelqu'un comme Julie pour constituer un couple. Et ça, c'est vrai que quand elle a débarqué, ça a pimenté sa vie. C'est plutôt une bonne chose, très bonne chose même.
On va découvrir où va aller ce couple cette semaine. C'est la semaine de tous les dangers, la semaine de toutes les décisions qui vont se prendre. Et c'est à ne pas manquer, évidemment, du lundi au vendredi à 20h40 sur France 2. Vos projets pour la suite, cinéma, théâtre, télévision, est-ce qu'il y a des choses qui vous attendent et qui nous attendent, nous, spectateurs?
Alors, moi, me concernant, je sais que j'avais tourné un film qui s'appelle Barbac, de Fabrice Eboué. J'avais fait une scène dedans qui m'avait beaucoup amusé. Mais maintenant, je prends beaucoup de précautions avec ce que je fais et à attendre que ça sorte et que ce soit diffusé et que je sois dedans. J'ai eu des mauvaises expériences au cinéma et tout ça, à faire pas mal de scènes et que tout soit coupé au montage. Bah, c'est comme ça, ça arrive. Bon, là, je sais que j'y suis puisque plusieurs amis ont vu le film en avant-première. M'ont dit, oh, tiens, je t'ai vu, c'était super. Bon, bah, voilà. Donc, là, une maigre actualité à part Un si grand soleil qui me prend beaucoup de temps, c'est un petit passage dans Barbac avec où je donne la réplique à Marina Foy, c'est Fabrice Eboué, c'est un super moment de boulot, voilà.
Mais après, qui va sortir dans quelques semaines là.
Oui, qui va sortir dans quelques semaines, je crois milieu d'octobre, mi-octobre, etc. Je suis même pas très au courant, c'est pour vous dire. Aïe, aïe, aïe.
Sophie.
Alors non, pas de théâtre parce que j'ai deux petits bouts de chou à la maison et en fait j'ai envie d'être avec eux le soir. Et dans les projets, j'ai en projet un long métrage. Mais voilà, c'est des choses qui sont un peu dans les tuyaux et dont voilà, j'ai pas trop envie de développer parce que c'est en développement justement, en recherche de financement, tout ça. Donc
pour le cinéma ou télévision?
Pour le cinéma. Ouais.
On aura l'occasion de s'en reparler. Hein, voilà, on se parle souvent, donc voilà, on aura l'occasion, bien évidemment.
Ça est loin, ouais, c'est un joli projet, ouais. Et je souhaite que ça se fasse.
Bon, on sera là, en tout cas. Merci Benjamin, merci Sophie d'avoir été avec nous, et on vous retrouve donc dans Un si grand soleil, et ça c'est dès ce soir, voilà, pour notre plus grand plaisir. Merci à tous les deux.
Merci.
J'ai peut-être trouvé la solution pour penser au stand, et je vais avoir besoin de votre aide.
D'ailleurs, je me disais qu'on pourrait en profiter pour fêter ça. C'est vous de venir dîner à la maison ce soir?
Il se vit dans une situation grave. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
On revient à la case départ, là, parce qu'on a un tueur en liberté.
Oui, mais on va se remettre au travail. Hein.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le grand plaisir de parler du téléfilm L'Ami qui n'existe pas, qui sera diffusé sur France 2. Audrey Dana et Mehdi Sadoun seront nos invités exceptionnels pour en parler. Les Olympiades, également le film de Jacques Audiard sera à l'honneur avec Jacques Audiard qui sera notre invité avec toute une partie de son casting. Nous continuerons à parler, bien sûr, Demain nous appartient avec Alexandre Brasseur qui viendra nous parler d'Alex, évidemment dans la série que l'on adore tous. On aura bien sûr aussi et bien des comédiens d'ici tout commence, plus belle la vie. Bref, de nombreuses surprises vous attendent lundi prochain dans Suite on écoute la télé.
Vous écoutez Fréquence Magique.
Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 7h30, 12h30 et 17h30 sur Fréquence Magique. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions. Notre application Chute, on écoute la télé pour iPhone et Android. Et nos pages Facebook et Instagram également, bien sûr, vous attendent. Et je vous retrouve bien sûr lundi prochain dès 18h pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Fréquence Magique et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et Langélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Chut, on écoute la télé avec les tourtes limousines. Spécialité élaborée en limousin sans huile de palme, sans conservateur. Pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confites de canard, cèpes ou gésiers en vente partout dans vos grandes surfaces.